Merci beaucoup, Anthony, de m'avoir invité. Je suis ravie de partager avec vous ma lecture et mon enthousiasme pour cette philosophe que j'ai découvert assez tardivement dans mon cursus philosophique. Et je suis ravie aussi de contribuer à la diffusion de sa pensée que je trouve majeure. Alors, tout comme Michael Labbé, on vient tous les deux de Strasbourg, je vais mettre le chrono aussi. Moi aussi, c'est tout à fait en plus dans le ton du texte sur lequel je vais réfléchir. Alors, le texte du journal d'usine que je vous propose d'étudier me semble intéressant à différents égards. Il pose d'abord le problème de son statut, dans quelle mesure les notes quotidiennes du journal d'usine, et plus précisément la conversation que rapporte ici Weil, se prête-t-elle à l'analyse philosophique ? La réponse à cette question nous conduira à saisir l'objet de ce texte, à savoir la subordination, comme un élément essentiel de la philosophie sociale weilienne, qui place au cœur de l'organisation oppressive du travail l'humiliation. Et on se trouve là, tout en bas de l'échelle, même de manière négative, sur l'échelle des valeurs de ce que serait l'idéal du travail dont a parlé tout à l'heure Michael Labbé. Et nous verrons enfin comment, à travers le caractère miraculeux que prend ici la camaraderie, c'est Weil qui utilise ce terme, sur fond de malheur, se dessine en filigrane la manière dont la pensée proprement sociale de Weil s'inscrit dans un itinéraire philosophique beaucoup plus large, ouvert à des niveaux distincts du réel. Avant de nous intéresser aux détails du texte, commençons donc par considérer sa forme. Le 10 avril 1935 correspond à une période où Weil est à la recherche de l'embauche, comme elle dit, dans le secteur de Saint-Cloud. Entrée chez Alstom le 4 décembre 1934 grâce à Auguste de Teuf, administrateur de la société, elle quitte l'usine le 5 avril 1935 et entreprend de trouver par elle-même un autre poste d'ouvrière. Les embauches se font d'ordinaire le matin devant l'usine où les chômeurs attendent pour savoir s'ils seront pris. Et c'est dans ce contexte qu'elle rencontre les deux ajusteurs dont il est question ici. À première lecture, ce texte semble reprendre les éléments d'une simple conversation et les sentiments de joie qu'a provoqué chez Simone Weil cet instant rare et fugace de franche camaraderie. Dans quelle mesure cette écriture, qui semble n'avoir de structure que chronologique, étant pour le reste l'expression de propos et de sentiments pris sur le vif, peut-il faire l'objet d'une véritable analyse ? Répondre à cette question en cherchant à statuer sur le discours tenu afin d'en apprécier la nature et la portée constitue le premier moment de notre explication. Il nous conduit à affronter deux difficultés. La première est liée à la nature du texte. Le journal d'usine n'est pas destiné à la publication. De l'aveu même de Simone Weil, ses écrits divers sur l'expérience d'usine sont un aide-mémoire personnel sur la question ouvrière. Et même s'il constitue un possible réservoir de matériaux pour un ouvrage ultérieur, il ne correspond à aucun projet éditorial défini. Elle formule ainsi Albertine Thévenon dans une lettre de fin décembre 1935 où elle partage ce qu'elle a senti à l'usine, la demande suivante « Garde cette lettre, je te la demanderai peut-être si un jour je veux rassembler tous mes souvenirs de cette vie d'ouvrière, pas pour publier quelque chose là-dessus, du moins je ne pense pas, mais pour me défendre moi-même de l'oubli. C'est difficile de ne pas oublier quand on change si radicalement de manière de vivre. » Fin de citation. En réalité, cette requête traduit selon nous bien plus que le simple désir de garder les traces d'un vécu particulier. Elle nous renseigne sur la volonté permanente de Weil de lutter pour que la pénibilité de la tâche à l'usine n'avilisse pas totalement sa pensée et l'empêche de bien se souvenir, précisément. Il faut à Weil résister constamment pour que l'épuisement de l'ouvrière ne dissolve pas la pensée de la philosophe. Weil veut en effet saisir, en l'éprouvant, ce qui, au cœur d'un système oppressif, transforme ceux qui y sont soumis en simples choses. Mais pour ce faire, elle doit paradoxalement ne pas se laisser broyer totalement par le dispositif qu'elle explore. Simone Petremann souligne ainsi l'effort permanent de Weil. Écrire chaque jour dans son journal et envoyer aussi des comptes rendus à Souvarine, ce dut être pour elle une fatigue supplémentaire pendant l'année d'usine. Mais comme son but était de connaître, de comprendre, et que pour cela il fallait se rappeler, elle ne se permettait que rarement de négliger cet effort. Weil ne prend pas des notes directement sur son lieu de travail, comme pourrait le faire un simple observateur. Elle rédige ses notes le soir ou plus tard. L'effort régulier d'écriture soutient par conséquent déjà cette remémoration, en même temps qu'il permet une certaine distance à l'égard des faits, une sélection, une construction. C'est tout à fait explicite dans notre texte, où la philosophe et l'ouvrière se passent en quelque sorte le relais. À la ligne 10, alors j'ai refait les lignes en fait en fonction de ce que Anthony Dequille m'a donné pour être certaine que tout le monde ait le même texte. Donc c'est à partir du petit, des petites feuilles que vous avez eues là que je pagine en fait. Donc à la ligne 10, sur un point technique évoqué par l'ajusteur de 58 ans, Simone Veil note entre crochets comme en aparté: tâchez de savoir de la manière la plus précise ce qu'est un développé. Tout le texte est d'ailleurs construit ainsi. Veil ne se contente pas de coucher sur le papier les propos que l'ouvrière tient avec l'un ou l'autre des ajusteurs au fil de la discussion. Elle ponctue ses propos de commentaires qui constituent les éléments de réflexion que cette discussion inspire après coup à la philosophe. On voit que Veil part de l'expérience pour initier de véritables questions philosophiques ou bien confirmer ce qu'elle avait déjà développé de manière théorique au préalable. Et vous reconnaîtrez sans doute les thèmes qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre dans l'explication du passage des réflexions sur les causes de la liberté de l'oppression sociale. Il est remarquable d'ailleurs qu'elle n'emploie ici quasiment jamais le « je », sauf pour indiquer son rôle d'interlocutrice, ligne 11, autant que j'ai compris, ligne 28, je réponds, ligne 32, je n'insiste pas. À Souvarine, elle explique d'ailleurs le 12 avril, c'est-à-dire exactement à la même période, que lorsqu'elle fait état de ses souffrances ou de ce qui en général vient frapper sa sensibilité, cela n'a rien de personnel. Voilà ce qu'elle écrit. Ces souffrances, je ne les ressens pas comme les miennes, je les ressens en tant que souffrances des ouvriers. Et que moi, personnellement, je les subisse ou non, cela m'apparaît comme un détail presque indifférent. Ainsi, le désir de connaître et de comprendre n'a pas de peine à l'emporter. » Fin de citation. Comme elle l'explique aussi à ses élèves de Rohan, « Tant qu'on ne s'est pas mis du côté des opprimés pour sentir avec eux, on ne peut pas se rendre compte. » Et c'est ce qu'elle fait en s'engageant à l'usine. Elle veut s'échapper, dit-elle, d'un monde d'abstraction, se trouver parmi des hommes réels. Les deux ajusteurs avec lesquels elle discute incarnent précisément ces hommes réels, avec lesquels il s'agit de sentir, mais sans parler à leur place, plutôt parler à partir de leur témoignage, en servant finalement de caisse de résonance. Et on voit bien qu'ils ont déjà perçu les causes de leur propre subordination. Il y a déjà identification par les ouvriers, même s'il n'y a pas nécessairement formulation. Pour autant, ce besoin d'un contact avec la vie réelle soulève la seconde difficulté que nous avions annoncée, celle du statut du journal d'usine et de la légitimité de la posture veilienne, dont on a déjà évoqué quelques éléments tout à l'heure. La présence même de Veil devant l'usine ce 10 avril, justifiée par sa volonté de trouver un emploi indépendamment de toute protection ou recommandation, avec la garantie de travailler incognito, si on peut dire, nous rappelle qu'elle est d'abord une intellectuelle, issue de la bourgeoisie, d'où son embarras lorsque le jeune ajusteur l'interroge sur ses passions, ligne 27. On pourrait en effet être tenté de l'accuser de ne pas être la mieux placée pour étudier les mécanismes de l'oppression, soupçonner que seule la différence de classe et une certaine déconnexion au réel alimentent ce besoin de se rendre compte. Au sujet de l'expérience à l'usine de Veil, Albertine Thévenon émet elle-même certaines réserves en disant « Une ouvrière va à l'usine par nécessité. Être prolétaire est une situation de fait. Ce n'est pas une situation de choix. » La philosophe peut choisir de vivre comme une ouvrière, mais elle n'est pas ouvrière. Elle conserve son réseau familial, ses acquis culturels, sa formation intellectuelle. Cette limite, Simone Veil en a pleinement conscience, mentionnant dans une lettre à Louis Bouet son éducation dans un milieu petit bourgeois. Elle sait ne pas être une prolétaire, mais en même temps, elle vit l'analogie aussi loin que ses forces lui permettent. Comme elle l'écrit à Albertine Thévenon en janvier 1935, « J'ai une faculté d'adaptation presque illimitée qui me permet d'oublier que je suis une professeure agrégée en vadrouille dans la classe ouvrière, de vivre ma vie actuelle comme si elle m'était imposée par une nécessité inéluctable et non par mon libre choix. » J'ai un peu réduit la citation originale. Simone Weil sait qu'elle cherche à se confronter au réel précisément parce qu'il ne lui est pas familier, en tout cas le réel ouvrier. Et elle l'assume. N'est-ce pas d'ailleurs le propre du questionnement philosophique que d'affronter ce qui nous étonne, qui nous est étranger, qui nous pose problème et qu'on ne comprend pas. Entrer dans la pensée weilienne, c'est donc se confronter à cette forme bigarrée d'écriture qui témoigne d'un effort pour saisir le réel brut en acceptant le contradictoire, le discontinu, le non-permanent, l'incertain, le singulier. C'est ce qu'on le rencontre en parcourant le journal d'usine, somme toute assez hétéroclite dans sa forme. Entrons donc à présent dans le détail du texte. La journée du 10 avril est consacrée à la recherche du boulot, comme elle dit encore. Or, cette recherche est avant tout marquée par l'attente. Aussi, la petite mention entre parenthèses qui ouvre le texte, ligne 1, temps divin, mérite-t-elle toute notre attention ? Il ne s'agit pas de parler de la pluie ou du beau temps, mais du temps météorologique qui renvoie au temps qui s'écoule, celui de l'attente devant l'usine et de ses conditions. Quelques pages plus loin, la philosophe explicite cette attente angoissante d'une embauche le matin devant les usines. Je cite « On attend de 7h15 à 7h15, sous un peu de pluie. Après quoi ? Pas d'embauche. Chez Renault, embauche finie. Une heure d'attente devant Salmson. » Cette attente est celle qui met le sans-emploi, je cite, « à la disposition d'autrui », nous dit Weil dans l'expérience de la vie d'usine. Et qui le rend incapable, je cite encore, d'embrasser par la pensée l'avenir prochain, de le dessiner d'avance, de le posséder. L'attente imposée devient un indicateur de la position que l'on occupe sur l'échelle sociale. C'est la situation la plus avilissante, lit-on dans le premier cahier, ou encore, dans le cahier 14, socialement, la marque des inférieurs est qu'on les fait attendre. Cette petite parenthèse annonce par conséquent le problème du texte, celui de la subordination du travailleur dans le système industriel capitaliste et des dépossessions multiples et humiliantes qui en découlent. La subordination, c'est précisément la soumission à la nécessité, non pas celle qui est irréductible à la nature des choses, mais la deuxième, celle qui repose sur l'organisation de la production. Celle qui pourrait donc être autre, celle qui est donc fausse nécessité. Être dépossédé, pour la philosophe, ce n'est pas se montrer incapable de prendre part à la richesse commune. C'est se voir confisqué de manière illégitime et pourtant légale, non seulement le fruit d'un travail, mais aussi la possibilité dans ce travail de lier la pensée et l'action et d'être reconnu pour cela au sein d'un milieu humain. Cette dépossession ne se limite pas à l'exploitation. Être exploité, comme le montre Marx, c'est exécuter plus d'heures de travail que celles qui sont nécessaires à la reproduction de la force de travail que le patron capitaliste a achetée. L'exploitation suppose par conséquent de transformer l'être en marchandise au mépris de sa dignité. C'est la conjonction de la survaleur indûment générée par le capitalisme et des effets multiples de l'humiliation profonde induite par l'attitude servile que cette survaleur impose, qui caractérise ce que Weil appelle l'oppression. Je cite « Cet abus de domination faisant peser jusqu'à l'écrasement physique et moral la pression de ceux qui commandent sur ceux qui exécutent. » Et l'ajusteur de 58 ans l'a bien compris lorsqu'il affirme, ligne 12-13, que le dégoût qu'il ressent ne vient pas du travail même, c'est-à-dire de la nature de la tâche, ni même de sa pénibilité, mais bien de la subordination que le travail implique. Le second facteur de subordination, après le temps, qui est évoqué dans le texte, c'est l'insécurité attachée à l'emploi et l'angoisse permanente qui en résulte. Les deux ajusteurs rencontrés par Weil sont en situation de précarité. Le plus vieux vit seul, plaqué par sa femme, et s'attend à être viré pour ne pas avoir travaillé assez vite, et le plus jeune ne gagne pas suffisamment pour se nourrir. Ils incarnent les travailleurs pauvres, ceux dont l'agir autonome a basculé du côté d'une simple activité pour autrui, les plaçant dans une position d'exécutant où ils ne décident ni de pouvoir travailler ou non, ni de la nature et des modalités de leur travail, ni de la destination de ce qu'ils produisent et encore moins de leur rémunération. Pour l'ajusteur, il n'y a ainsi pas grande différence entre le travail à l'usine et le poste d'artilleur qu'il occupait pendant la guerre, si ce n'est une différence non de nature mais de degré dans la dangerosité et la pénibilité. Dans tous les cas, il s'agit de faire ce qu'on nous dit sans réfléchir ni protester. L'ajusteur évoque spontanément la peur que l'on ressent lorsqu'on est exposé en première ligne et Veil rapporte cette peur au sentiment d'humiliation, même si l'ajusteur semble avoir échappé à cette humiliation, mais elle ramène cela au sentiment d'humiliation que ressentent ceux qui comprennent, à travers le danger auquel ils sont exposés, toute l'insignifiance à laquelle ils sont réduits et qui vaut aussi pour l'usine. On arrive à admettre au plus profond de soi, dit Veil, qu'on compte pour rien. Réduit à sa force musculaire, l'ouvrier est parfaitement interchangeable. Il n'est que corps, comme le gars exposé en première ligne n'est que chair à canon. La pénibilité ou le danger ne constituent donc pas les seuls problèmes. Il faut prendre en compte la nature de cette exposition et la manière dont elle traduit l'absence de considération de ceux qui la commandent et l'insignifiance dans laquelle elle plonge ceux qui l'exécutent. À partir de la ligne 7, Veil précise par conséquent la nature de la subordination à l'usine. En annonçant avec la mention « sur le travail » un mouvement qu'on peut faire aller jusqu'à la ligne 11. Cette subordination au travail repose essentiellement sur une inversion du rapport de l'homme au dispositif de transformation de la matière. Ce n'est plus l'ouvrier qui trouve les solutions adéquates pour plier la tôle, il n'est pas suffisamment formé pour le faire. Il doit simplement exécuter ce que d'autres lui commandent, en s'adaptant aux plans, aux machines et aux objectifs chiffrés. Le plus vieux des ajusteurs se plaint ainsi de la complexité du travail, dont on peut penser qu'elle va de pair dans l'industrie moderne avec la complexité de la machine. Le pliage de la tôle plate suppose par conséquent des notions avancées de mathématiques, de géométrie, que les ouvriers n'ont pas nécessairement. Ils se retrouvent alors à exécuter des tâches mécaniquement sans comprendre les règles qui imposent tel ou tel geste, ou bien ils sont conduits à faire des erreurs. Ils sont soumis aussi à des directives qu'ils appliquent sans pouvoir apporter leur expertise propre. Et même lorsqu'ils ont cette expertise par la pratique, ils n'ont pas la possibilité de la mettre en avant. Cette subordination redoublée est incarnée par la figure du contremaître. Alors que l'ajusteur fait des pièces en 14 minutes, temps nécessaire vraisemblablement à ce que la pièce soit bonne, c'est-à-dire qu'elle corresponde aux cotes indiquées dans la commande, eh bien le contremaître impose de faire la pièce en 7 minutes, temps somme toute impossible à respecter puisque lui-même n'y parvient pas et produit une pièce mauvaise lorsqu'il veut montrer l'exemple à l'ajusteur. Le contremaître tient par conséquent sa légitimité, non de son savoir ou de ses compétences, mais simplement de la position hiérarchique qu'il occupe à la fois au-dessus de l'ouvrier et en dessous de ceux qui fixent les objectifs de rendement sans tenir compte de la faisabilité technique ou de la qualité, d'où la question ironique de Veil, c'est donc de l'ajustage en série. Le problème, c'est que lorsque les pièces sont mauvaises, l'ouvrier n'est pas payé. Il y a donc triple peine. Rupture entre la pensée et l'action, subordination à la hiérarchie et perte de salaire. L'impossibilité pour l'ouvrier de prévoir sa paye est donc un facteur supplémentaire de subordination. Non seulement il est soumis à des aléas matériels et techniques qu'il ne peut pas décider de modifier, mais il doit supporter tout le poids de cette inversion absurde dans la mesure où le temps perdu lié à ces aléas se répercute sur son salaire. C'est le système aberrant des bons coulés auquel l'ajusteur fait référence à la ligne, alors c'est plus la bonne ligne, enfin il y fait référence. Et Simone Veil y fait très souvent mention dans son journal d'usine. Le bon indique à l'ouvrier le nombre de pièces qu'il doit réaliser dans un temps déterminé. S'il n'a pas réalisé suffisamment de pièces, le bon est alors coulé, ce qui entraîne une retenue sur salaire dont l'appréciation elle-même est arbitraire. Donc il n'y a pas que le fait de fixer le temps qui soit arbitraire. L'appréciation du temps perdu est elle aussi arbitraire. Je cite un passage. On règle les bons coulés à la fin de la quinzaine, en petit comité. Mouquet, le chrono. Le chrono est impitoyable. M, sans doute, défend un peu les ouvrières à un prix arbitraire. Des fois 4 francs, des fois 3 francs, des fois au taux d'affûtage, 2 francs 40 pour les autres. Fin de citation. Ce système de calcul plonge le travailleur dans la plus grande précarité puisqu'il ne sait jamais exactement combien il va gagner et s'il pourra, à effort constant, gagner la même somme le jour suivant. Cette opacité du calcul des salaires est en outre associée par l'ajusteur au bureau, ligne 15. Cette référence traduit ce qu'on a déjà appelé ce matin le morcellement, mais aussi le cloisonnement inter- et intra-classe qui caractérise le système industriel capitaliste et que Weil avait relevé dès le 25 août 1933 dans l'article dont nous avons déjà parlé, Perspective, allons-nous vers la révolution prolétarienne. La bureaucratie induit en effet une triple séparation entre ceux qui produisent et ceux qui dirigent, ceux qui dirigent et ceux qui possèdent, et enfin entre ceux qui possèdent et ceux qui administrent. Ces fractures se combinent entre elles pour produire un millefeuille anonyme où capitalistes, ouvriers, techniciens, administratifs sont caractérisés chacun par un type particulier de rupture et même de dépossession, pourrait-on dire finalement, aggravée par une spécialisation dans chacune de ces fonctions. Dans l'usine rationalisée, je cite, « L'homme se trouve privé, au profit d'un mécanisme inerte, de tout ce qui est initiative, intelligence, savoir ». Méthode. Cette fracturation se résume finalement pour l'ouvrier à une distinction essentielle entre, je cite, ceux qui disposent de la machine et ceux dont la machine dispose. L'ouvrier est dégradé au rang non seulement de moyen, mais à celui de moyen de moyen, dans une forme exponentielle d'instrumentalisation, inversement proportionnelle à sa dignité. Si le vieil ajusteur a bien identifié sur le terrain les entraves à la libre activité des individus, réclamant de travailler pour lui, la réponse qu'il semble trouver à partir de la ligne 20 dans la possibilité de faire de la perruque, c'est-à-dire d'utiliser les équipements de l'usine pour travailler à son propre compte, relève encore d'un cran, en réalité, la subordination qui est la sienne. En effet, pour Weil, l'ouvrier n'a que l'illusion de travailler pour lui-même. Car s'il est contraint de faire de la perruque, soit pour gagner davantage, soit pour retrouver un semblant d'activité libre, c'est bien d'abord parce que le système capitaliste ne lui permet pas de vivre bien, c'est-à-dire de satisfaire les besoins du corps et de l'âme qui lui permettraient de déployer pleinement ses qualités d'homme. Cette illusion ajoute aux différentes déclinaisons de la subordination que nous venons de voir, et elle ajoute cette déclinaison particulière que Weil nomme l'obsession des sous, qui, même si elle est bien plus souvent liée à l'angoisse de ne pas gagner suffisamment qu'à l'avidité d'accumuler la richesse pour les ouvriers, eh bien elle détourne l'ouvrier du mécanisme oppressif contre lequel il devrait lutter. D'où la référence à l'esclave que Weil utilise deux fois dans la suite du texte, lignes 21 et 23, pour désigner le fait que l'ouvrier n'est plus qu'un moyen de production comme un autre, au service d'un autre moyen, au service finalement du dispositif industriel en général. Or, nous dit Simone Weil, je cite, « Dès qu'un homme dans l'exercice du métier est subordonné à une autre chose qu'à la chose même qu'il doit transformer, ce n'est plus un travailleur, c'est un esclave. » Aussi, l'ajusteur n'a-t-il pas perçu toutes les dimensions de sa condition servile, nous dit Weil, ou bien peut-être l'a-t-il comprise, mais, comme c'est un homme de cœur, dit Weil, pour ne pas se laisser anéantir totalement par l'humiliation, sans doute a-t-il développé une forme d'accoutumance à la cruauté, d'indifférence, que Veil qualifie de cynisme, mais qu'on pourrait percevoir comme une forme d'insensibilisation à la souffrance. On l'aura compris, dans toute cette partie du texte que nous venons d'explorer, Veil développe clairement des analyses qui ont pour objet la vie humaine aliénée ou mutilée. Vie qui engage, pour reprendre les mots de Frank Fischbach dans son manifeste pour une philosophie sociale, je cite, « un type particulier de questionnement philosophique et une forme singulière d'enquête relevant de ce qu'on appellera ici la philosophie sociale ». On perçoit bien l'originalité de la pensée sociale veilienne qui place au cœur du mécanisme oppressif non pas seulement l'exploitation ou la souffrance physique, mais la subordination qui nourrit ce processus d'invisibilisation à travers lequel l'ouvrier se convainc de ne compter pour rien. Aussi peut-on lire dans le journal d'usine que, je cite, « le fait capital n'est pas la souffrance, mais l'humiliation ». C'est donc au regard de cette humiliation, et sur fond de malheur, que la camaraderie semble ouvrir au cœur même de la nécessité une brèche, d'où perce la lumière d'un niveau suprasocial. Ici commence la troisième partie de notre explication. S'il est évident que la camaraderie peut prendre le sens social chez Veil d'une forme de solidarité entre personnes unies par des conditions communes de vie et de travail, par l'appartenance à une classe et la nécessité d'une lutte commune, il semble que ce terme prenne dans le texte une dimension bien plus universelle. Veil, la considérant précisément au-delà de la différence des classes et des sexes. Ce que les ouvriers partagent à travers cette conversation du 10 avril semble relever d'un niveau suprasocial, inscrivant la philosophie de Veil dans un itinéraire de pensée où, je cite, « la distinction des niveaux est chose de suprême importance, comme on le lit dans le cahier 7. Le temps divin, vous rappelez celui de la première ligne, prend alors ici un tout autre sens qu'à la ligne 1 pour désigner un moment suspendu qui, sous le regard même de la nécessité, fait signe vers l'extraordinaire, vers le miraculeux, deux termes qu'utilise Veil. Si la conversation est extraordinairement libre, ligne 22, c'est d'abord parce que, tant du point de vue de son contenu que celui de sa forme, elle s'extrait de la sphère des besoins. À l'usine, nous venons de le montrer, la subsistance qui ne devrait être qu'un des objets du travail en devient le principal mobile. La réduction de l'objet au mobile évoque ce qu'on appelle aujourd'hui encore un travail simplement alimentaire. Une tâche conduite mécaniquement par son objectif et qui ne présente aucun autre intérêt pour celui qui l'accomplit. L'ouvrier est le plus souvent réduit à cet état. Les femmes, encore plus que les hommes, incarnent cette vie à nu, cantonnée à la sphère des besoins, comme l'a constaté Veil chez Alstom. Elles ont, à côté de leur travail avilissant à l'usine, toute la charge domestique du foyer. Elles sont aussi moins payées et moins considérées. Veil confie dans une lettre à Victor Bernard, en mars 1936, « En tant qu'ouvrière, j'étais dans une situation doublement inférieure, exposée à sentir ma dignité blessée non seulement par les chefs, mais aussi par les ouvriers, du fait que je suis une femme. » Eu égard à cette réalité, la conversation du 10 avril opère un déplacement à un niveau supérieur aux misères de l'existence. Si la conversation est ici qualifiée d'extraordinaire du point de vue de son contenu, ce n'est pas parce que Veil partagerait toutes les idées de ses interlocuteurs dans une harmonie intellectuelle totale. Elle émet une réserve qu'elle ne développe pas et sur laquelle nous passerons très vite au sujet de la défense nationale. On sait que la philosophe défend encore des positions pacifistes en 1935 qu'elle sera amenée à réviser au début de la Seconde Guerre mondiale, position qui n'était peut-être pas partagée par les ajusteurs. Si la conversation est extraordinaire, en réalité, c'est parce que les sujets abordés amènent les individus à sortir de leur ordinaire, à considérer le réel d'un point de vue qui n'est pas celui de leur moi souffrant et désirant seulement. Il est évident qu'il est question ici du travail, mais pas du point de vue de sa simple description. Le vieil ajusteur se plaint, mais il justifie les motifs de sa plainte en des termes qui viennent confirmer et nourrir les analyses théoriques de la philosophe. Les considérations sur le travail ne se limitent pas à un simple ressenti subjectif. Elles traduisent une lucidité qui autorise, comme nous l'avons vu, une forme de conceptualisation, de généralisation de l'expérience qui décentre l'ego de lui-même. Cette capacité au décentrement transparaît aussi dans les considérations sur l'art, qui émaille la conversation, la photo, la peinture, la lecture. L'art ouvre un espace où l'homme retrouve une activité libre qui n'est pas marquée par la question de la subsistance. L'art est évoqué comme violon d'Ingres, ligne 2, comme passion, ligne 27, et non comme manière de gagner sa vie. L'art suppose aussi pour Weil une représentation d'un monde que je n'ai pas sous la main. Le jugement esthétique ne repose pas sur une libre jouissance liée à la possession d'un objet. Souiller, je cite, c'est modifier, c'est toucher. Le beau est ce qu'on ne peut pas vouloir changer. Prendre puissance sur, c'est souiller. Posséder est souiller, lit-on dans le cahier 11. Le beau figure ainsi un réel dont l'ego est absent. Il s'agit en effet d'accepter de se tenir face à la réalité sans vouloir y imprimer la marque de notre présence ou de notre être. Le sentiment esthétique, le goût du beau, représente à l'homme la possibilité d'un rapport au monde et aux autres qui n'est pas marqué du sceau de la force. On sait par conséquent toute l'importance que Weil accorde à la diffusion de la culture, à la fois technique et plus générale, dans la société, mais plus particulièrement dans le milieu ouvrier. Nous ne développerons pas ici ce point, mais nous voulons essayer de comprendre en quoi cette lucidité et cette ouverture à l'art des deux ajusteurs témoignent de ce que Weil appelle des tendances révolutionnaires avant de les requalifier en conscience de classe et en esprit d'homme libre. Weil utilise en effet l'expression « tendance révolutionnaire » pour en faire aussitôt un mot très impropre. Dans l'article de 33, Perspective, la philosophe exprime de manière assez abrupte les motifs à la fois théoriques et pratiques qui la conduisent à douter qu'une révolution ouvrière aboutisse à autre chose qu'un échec sanglant. Elle se méfie des espérances creuses attachées au mot de révolution. Mais la distance qu'elle prend avec la révolution est toutefois plus complexe qu'il n'y paraît. Il semble que la révolution puisse rester un outil de transformation profonde, mais comme un idéal. Et évidemment, cet idéal passe aussi par l'idéal d'un travail libre. Il faut donc travailler à cet idéal. Et pour cela, il faut comprendre que l'ouvrier ne souffre pas seulement de l'insuffisance de la paye, il souffre parce qu'il est relégué par la société actuelle à un rang inférieur, parce qu'il est réduit à une espèce de servitude. Et c'est cette servitude qu'il faut affronter. Et qualifier les ajusteurs ici d'hommes ayant une conscience de classe, eh bien, ça permet de voir qu'ils ont aperçu d'abord que la société est divisée en classes distinctes et qu'elle a un fonctionnement oppressif. Mais ils aperçoivent aussi, selon la perspective marxienne, leurs conditions communes et les intérêts qu'ils pourraient collectivement défendre. En outre, ils ont un esprit d'homme libre en ce qu'ils aperçoivent que ce qu'il y a à défendre n'a pas une position seulement économique ou matérielle. Ils résistent à l'oppression dans le texte en cherchant à redéployer à travers l'art ou même à travers sa simple évocation, pour le plus jeune trop épuisé pour dessiner, la libre jouissance de leur pensée. Cette conversation est donc extraordinaire parce qu'elle aménage au cœur même de la nécessité un espace de pensée libre, d'échange non utilitaire. Cela se traduit aussi du point de vue de la forme de la conversation. Le discours échappe ici au formalisme académique pour faire place au dialogue mêlant aux analyses théoriques, les illustrations pratiques, mais aussi les sensations, le partage des souffrances du quotidien. Pour autant, il ne s'agit pas de se porter vers autrui par simple affection ou par intérêt. Cet échange se soustrait aux règles ordinaires des relations sociales marquées par les rapports de force. Et il y a en quelque sorte, c'est ce que Weil appelle l'impersonnel, cette capacité de tout homme de se rapporter aux autres, indépendamment de ses inclinations égotistes. Il y a quelque chose de miraculeux, et ce terme est selon nous à prendre en un sens fort, comme nous voudrions très vite le souligner en conclusion. Avec le malheur en toile de fond, la relation authentique à l'autre suppose une compassion dont l'homme est le plus souvent incapable pour Weil. La pensée fuit le malheur, dit-elle, aussi promptement, aussi irrésistiblement qu'un animal fuit la mort. Aussi, dans un tel contexte, porter son attention à l'autre de manière libre et désintéressée comporte-t-il une dimension surnaturelle, une part de miraculeux, pour reprendre le terme qui clôt l'extrait, formant ainsi une sorte de boucle en reprenant à un niveau supérieur la parenthèse liminaire, temps divin. La camaraderie, en ouvrant un espace qui échappe d'une certaine manière au rapport de force, annonce selon nous cette capacité morale de l'homme à l'impersonnel, où l'individu se décentre de lui-même dans une attention pure à l'autre. Peut-être annonce-t-elle même les analyses religieuses qui conduiront Veil à faire de l'amour du prochain une forme de l'amour implicite de Dieu. Dieu ayant renoncé à la toute-puissance pour laisser être la créature, dans un geste d'amour qui implique le retrait de soi du monde, il ne peut en effet se manifester à l'homme dans le règne de la nécessité qu'à travers l'amour. Non pas celui qu'il donne à sa créature, mais celui que la créature se découvre capable de donner à son prochain dans un geste analogue à celui de Dieu. L'amour du prochain, nous dit Veil, suppose de consentir à un amoindrissement de son être propre pour laisser être l'autre indépendamment de toute logique égoïste. Un tel amour nous dévoile par conséquent, sur le mode analogique, notre rapport à Dieu. Et je n'ai pas respecté.